Alors, il y avait un besoin énorme et on voulait, Jésus voulait prendre du repos pour lui-même, puis il voulait que ses disciples prennent du repos aussi. On a besoin. Il y a une énorme pression, il y a une poussée d'adrénaline, on se vide de notre énergie, et puis on a besoin, hein, Alex, on a besoin, à un moment donné, de refaire des forces. Une fois qu'on a fait un effort important, on a besoin de se mettre à l'écart, de prendre un sabbat, puis de se reposer. Besoin de décrocher un peu. Et Jésus se préoccupe du bien-être de ses disciples. Jésus veut que ses disciples ils soient en forme. Et il voit qu'ils sont épuisés et il leur propose de faire un petit repos. Mais ça ne marche pas toujours comme on le veut, hein? Les foules qui ont répondu à l'Évangile et qui voulaient voir surtout des guérisons, ils ont quitté les villes, ils l'ont suivi à pied. Alors, Jésus est sur la mer de Galilée, ou la mer de Tibériade, les enfants qui ont des notes à prendre, là. C'est la même, hein? Galilée puis Tibériade. Et Jésus entre dans la barque, monte dans la barque, il s'en va dans le nord, et les foules le voient partir, et on voit aussi que plusieurs les virent s'en aller, les reconnurent, et de toutes les villes, on accourut à pied, on les devança là où ils se rendaient. Alors, on a une photo de la mer de Galilée. Ça, c'est le lac de Tibériade. Ça a 13 kilomètres de large, puis 21 kilomètres de long. Alors, c'est la moitié de l'île de Montréal. Si on était au point extrême de la mer de Galilée, puis on allait dans le nord, c'est à peu près 20 kilomètres, et c'est comme d'ici, puis aller au centre-ville. Alors, lui, il est dans la barque. Heureusement, probablement qu'ils ont un peu de repos dans la barque, mais tous les villages autour, la mer de Galilée, il y a plein de villages autour. Alors, les gens voient la barque, puis ils suivent la barque, et puis ils se ramassent 5000 personnes au moins. Ça, c'est juste les hommes, ils ont compté juste les hommes. Alors, on évalue à peu près à 10 000 ou 20 000 personnes qui se ramassent dans un coin qui est plus loin des foules. Alors, on voit que Jésus commence à être populaire, surtout qu'il a guéri beaucoup de personnes. Les foules sont attirées par les guérisons. Ils amènent leurs malades, ils amènent toute la famille est là parce qu'il y a un petit garçon avec des petits pains. On calcule, il y en a qui vont jusqu'à 20 000 personnes qui seraient rassemblées dans les montagnes. Jésus pense avoir un petit répit, pense avoir une pause, il s'en va en vacances. Et qu'est-ce qui arrive? Une foule immense qui l'attend. Hein? Mais pour Jésus, les contretemps, les choses qui dérangent notre horaire, pour lui, ça ne le dérange pas. Pour lui, il voit ça comme une opportunité d'agir et de voir Dieu agir. Intéressant, hein? On peut faire on a tous des projets cette semaine, on a un agenda cette semaine. Et souvent, il y a des dérangements, il y a des contretemps qui nous arrivent. Et puis là, on se choque ou bien on n'est pas content parce que nos projets se... Mais Jésus n'est pas comme ça. Jésus, il voit ces contretemps-là comme des opportunités pour... Il voit la main de Dieu. Puis il dit, oups, ça, j'ai pas le contrôle là-dessus. Et si Dieu permet ça, si Dieu envoie ça, c'est parce qu'il y a quelque chose à faire dans cette occasion-là. Alors, ça peut nous servir. On est contrarié cette semaine, pris dans le trafic, puis... Alors, voir ça comme une opportunité. Il y a une opportunité de louer le Seigneur. Puis il y en a un qui vient me couper, là, ça fait une demi-heure que je suis en ligne pour ressortir. Lui a passé devant tout le monde, puis il vient de couper. Ça, c'est une belle occasion de louer le Seigneur. Mais regardez la réaction de Jésus face à la foule. Alors, quand tu as vu la foule énorme, il a été ému de compassion. En grec, hein, c'est les splenkni, splenk quelque chose. Hein? Les entrailles. Ces entrailles ont été touchées. Physiquement, Jésus a ressenti la compassion. Hein, il a souffert avec les gens qui étaient là. Et c'est intéressant parce que dans Luc, il dit qu'il les a accueillis puis il a guéri ceux qui avaient besoin de guérison. Et on voit que c'est écrit ailleurs que les gens suivaient parce qu'ils voulaient voir des guérisons. Mais Matthieu, lui, il dit ému de compassion. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Jésus est pris dans ses tripes, dans ses entrailles? Parce qu'il voit des brebis qui n'ont pas de berger. Il voit des gens qui n'ont pas d'enseignement, des gens qui sont en train de mourir de faim spirituellement. Pas juste des gens qui sont malades, pas juste des gens qui ont faim, mais des gens qui sont en train de mourir spirituellement. Ils voient plus loin que les besoins physiques. Alors, tout ce miracle-là qu'on voit, là, c'est dans le plan de Dieu. Dieu veut se servir de ce miracle-là pour enseigner quelque chose à ses disciples, pour nous montrer quelque chose. Le but, c'était que celui qui peut guérir le corps, c'est celui qui va guérir l'âme. Celui qui peut nourrir le corps, c'est celui qui va nourrir l'âme. Et c'est Dieu. Alors, comme Jésus, je pense qu'on devrait avoir les yeux ouverts lorsqu'on est devant un besoin, quelqu'un qui a, comme Mimi l'a mentionné tantôt, c'est un bon exemple. Quand on est en contact avec la souffrance, avec un besoin, Jésus, sa première réaction, c'était, il a vu ce besoin-là et il a été ému, il a été touché. Son cœur s'est ouvert pour répondre à ce besoin-là, pour compatir. Hein? Et il a répondu à ce besoin-là. Il a vu une opportunité-là d'agir et de voir Dieu agir pour répondre à ce besoin. Alors, cette semaine, on va rencontrer des gens qui ont des besoins et on ne doit pas juste passer à côté puis sans avoir cette émotion-là qui va faire qu'on va tenter de répondre à ce besoin-là. Alors, c'est le but de cette multiplication-là, c'est d'amener ses disciples, d'amener la foule à voir qu'il y a un besoin plus grand que leur estomac et un besoin plus grand que la guérison de leur corps. Et jusque-là, ça ne rentre pas, le message ne passe pas. Ils sont loin de comprendre. Dans Marc, il dit que les disciples n'ont pas compris la multiplication des pains parce qu'ils avaient le cœur endurci. Ils n'ont pas compris ce que Jésus faisait là, parce qu'ils avaient le cœur endurci. Et on va voir plus tard la réaction. Donc, on a une foule, minimum 5 000, peut-être 20 000 personnes, le Centre Bell à nourrir, a marché toute la nuit, une bonne partie de la nuit, la plupart. Ils ont écouté l'enseignement de Jésus toute la journée. La célébration du matin est allée jusqu'au coucher du soleil. Ils n'ont pas mangé, ils sont partis en vitesse. Il n'y a personne qui a apporté de lunch, excepté le petit gars, semble-t-il. Hein? Et la nuit va tomber. Et là, les disciples commencent à... Il y a des technocrates dans la gang, et puis ils disent, bien, il faut que ces personnes-là mangent, la nuit va tomber, alors il faut manger. Et leur solution, quelle était leur solution? Renvoie-les, hein? Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes, dans les villages des environs, pour s'acheter de quoi manger. Et je pense que c'est Luc qui dit pour se loger aussi. Alors, Jésus arrête d'enseigner et puis répond à ce besoin-là urgent de manger. Ça, c'est la constatation, la proposition des apôtres. Maintenant, quelle est la solution de Jésus? Donnez-leur vous-même à manger. Je ne sais pas si On peut se mettre dans la peau des apôtres. Donnez-leur vous-même à manger. Tu fouilles dans tes poches. Il y avait quand même 200 deniers. Un denier, c'est une journée d'ouvrage. Mais j'ai calculé qu'avec 200 deniers, on pourrait acheter un sandwich en face pour 5 à 7 personnes. Alors, ils n'avaient pas suffisamment d'argent pour nourrir la foule. Et puis, aller dans les villages les plus proches, le temps d'y aller, le temps de revenir avec le transport, avec la livraison, c'était quelque chose d'impossible. Jésus demandait quelque chose d'humainement impossible, n'est-ce pas? L'autre possibilité, ça serait de... On partage. Combien avez-vous de pain? Alors, dans l'entourage des disciples, il y a un petit gars, un petit garçon, qui a combien de pain, les enfants? OK, il ne m'écoute pas. Les adultes? 5 pains et 2 poissons. Hein? Lui, il est brillant. Peut-être qu'il a la bosse des affaires. Puis il a vu la foule qui... il m'a amené un petit peu de provision, puis ça va valoir cher, ça. Hein? Les gens affamés, non. Alors, c'est tout ce qu'il y avait. 5 pains, 2 poissons pour nourrir 10 000 personnes. Mais c'est un début. Hein? Qu'est-ce qu'on a dans nos mains? Les besoins sont énormes. Seigneur, qu'est-ce qu'on a dans nos mains? 5 pains et 2 poissons. Et quelle est la solution de Jésus? J'ai trouvé cette image-là, c'est intéressant. Des rangées de 50 ou 100 personnes, c'est écrit qu'il y avait beaucoup d'herbes vertes. Hein? Alors, le Seigneur se préoccupait de que les gens soient bien, bien confortables dans l'herbe. Et il a fait asseoir par rangées de 50 et 100. Et celui qui a fait l'illustration, il a fait deux rangées, une en face de l'autre, voyez? Puis on voit les apôtres qui se promènent dans le milieu, puis ils nourrissent. Donc, faites-les asseoir. On voit un Dieu d'ordre, un Dieu qui organise les choses pour que ça fonctionne bien. Et il met, il y avait peut-être une centaine de rangées comme ça sur la colline, là, sur l'endroit où ils étaient. Alors, qu'est-ce que fait Jésus ensuite? Il prend les 5 pains, les 2 poissons, il lève les yeux vers le ciel et il rend grâce. C'était la coutume quand on prie pour demander quelque chose, de lever les yeux vers le ciel, comme quoi on s'attend à ce que Dieu réponde. Alors, il prend les 5 pains, rend grâce, lève les yeux au ciel, il rompt le pain, le donne aux disciples. Les disciples prennent probablement, je ne sais pas si c'est les pains ou les paniers, ils avaient des paniers, ils se promènent avec les paniers, et le résultat, tous mangèrent et furent rassasiés. On emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Facile? Hein? C'était bien facile? Qu'est-ce qu'il fallait? On a 5 pains, 2 poissons, un besoin immense qui nous dépasse complètement. Qu'est-ce qu'on a besoin? Dépendre du Seigneur. Je pense que Jésus voulait éprouver la foi. Même dans Jean, il dit à Philippe qu'il a posé cette question-là pour éprouver sa foi. Le Seigneur nous amène souvent dans des endroits où on est complètement dépassé par les besoins. On est démuni devant le travail à faire. Et les disciples, eux autres, ils reviennent là. Ils reviennent, je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais ils se sont promenés dans les villages. Les démons nous sont soumis. Les gens sont guéris. On prêche l'Évangile avec puissance. Il y a un soulèvement populaire. Il y a quelque chose d'énorme qui se passe là. Toute la Galilée s'est levée, puis recherche Jésus. Mais dans cet épisode-là, c'est comme si le Seigneur, il leur dit, il les amène là, au bout de leurs limites. Vous êtes démunis devant le travail qu'il y a à faire. Vous devez vous attendre à voir la puissance de Dieu agir dans ces moments-là. Ça, c'était la leçon de Jésus. Il a attendu jusqu'à la dernière limite. Il a attendu le soir. Que les gens soient vraiment sans solution. Et un peu plus tard, juste dans Jean 7, dans le chapitre suivant, Jésus va dire aux disciples, il y a des fleuves d'eau vive qui vont couler de votre sein, de votre estomac, hein, de votre cœur, de votre intérieur. Il y a des fleuves d'eau vive qui vont venir et qui vont arroser toute la terre. La terre est un désert. Et vous autres, là, la petite gang, là, vous allez être le robinet. Hein? Nous sommes le robinet de la puissance de Dieu, de la grâce de Dieu. Et qu'est-ce qui fait? Il fait actionner le robinet, d'après vous? Qu'est-ce qui fait ouvrir le robinet? Un petit mot. Qu'est-ce qui fait que je vais ouvrir mon robinet? Je reçois la puissance de Dieu, puis elle va passer à travers moi, à travers nous. La foi? Oui, certainement la foi. Oui, c'est bon. Autre chose? Je n'ai pas compris? Le Saint-Esprit, oui, ça c'est... Le Saint-Esprit, c'est ce qui va... Ça va couler, mais qu'est-ce qui rouvre le robinet? La prière, on se rapproche. Quand Jésus a vu la foule, compassion. C'est la compassion. Si mon cœur est dur devant la souffrance humaine, ça va me passer 100 pieds par-dessus la tête. Alors, qu'est-ce qui va répandre le Saint-Esprit? Qu'est-ce qui va causer l'action de Dieu, promouvoir l'action de Dieu, c'est la compassion de ses enfants. C'est le robinet qui ouvre la puissance de Dieu pour agir. La multiplication des pains, elle est racontée dans les quatre évangiles. Ça dépasse le besoin de manger. Et je pense que c'est une métaphore qui nous révèle Jésus. Plus tard, dans l'évangile de Jean, il raconte la multiplication des pains. Et puis, on va lire ensemble l'application que Jésus fait de cette multiplication-là. Il relie ça à... Oh, juste avant. Alors... 5000 personnes qui ont été bénies, qui ont été nourries par Jésus. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors, quelqu'un veut nous lire? Vous êtes se lever et appuyer sur les mots. Quelqu'un veut être ému de compassion, ouvrir le robinet et... et c'est là qu'il relie cet épisode-là à quelqu'un d'autre, Jean-François. Jésus fait le rien. Comme Dieu a nourri le peuple dans le désert miraculeusement, hein, par la manne, Jésus amène le peuple dans un lieu désert et puis il reproduit ce miracle-là. Et il relie la multiplication des pains au fait qu'il est le pain de vie, qu'il est celui qui peut nourrir miraculeusement le peuple de Dieu, mais pas seulement physiquement, spirituellement. Et quelqu'un d'autre qui veut lire la suite de Jean? Alors, Jésus, il s'identifie comme le pain du ciel. Hein? Celui qui le reçoit, il reçoit quoi? La vie éternelle. Celui qui reçoit Jésus reçoit la vie éternelle. Comme celui qui reçoit le pain reçoit la vie et nourrit dans son corps, de la même façon, celui qui reçoit Jésus naît de nouveau. Il reçoit une nouvelle vie. Et il est nourri aussi par ce pain-là. Et c'est ce qu'on va faire dans une minute. On va prendre le repas du Seigneur avec cette relation-là qu'on vient de voir, mais un avant-dernier texte. Quelqu'un veut lire? Comprenait pas le message. Il suivait Jésus pour avoir de la nourriture, pour être guéri, mais que d'accepter que Jésus était celui qui guérissait les âmes, qui nourrissait les âmes, ça les dépassait complètement. Et finalement, dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent en arrière et cessèrent d'aller avec lui. Jean 666, hein, 666, on peut le retenir. Jésus dit donc aux douze, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? » Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru et nous avons connu que c'est toi le Christ, le Saint de Dieu. » Oups, une petite lumière qui vient d'allumer. Jésus venait de s'identifier, venait de se révéler comme étant Dieu, comme étant le Fils de Dieu, comme étant le pain du ciel. Et il y a quelques disciples qui ont compris, qui ont dit, on continue à te suivre, parce que c'est toi qui es la vérité. On vit dans un monde qui est bouleversé, qui est de plus en plus loin de... des valeurs chrétiennes. Et nous, qu'est-ce qu'on répond? Plusieurs fois dans ma vie, j'ai dit, Seigneur, où c'est que j'irai? Tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, je crois en toi. Je t'ai connu. Je sais que c'est toi qui es le Christ, le Messie. Et je mets toute ma confiance en toi. Et le Seigneur nous appelle à faire ça ce matin d'une façon concrète, je pense qu'on peut le relier au repas du Seigneur. Autant la multiplication des pains est reliée à la manne dans le désert, autant ce message-là est relié à la table du Seigneur où on va prendre le pain. Je vais inviter les anciens à venir, ou deux anciens, à venir pour m'aider à prendre le repas du Seigneur.